Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France.
Bonsoir à tous, chers amis. Bienvenue dans les vraies voix qui font bouger la France. À partir de 19h30, parlons vrai avec les entrepreneurs. Vous retrouverez Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart en compagnie de ses invités. Mais avant ça, place aux voix de la politique. Maxime Thiebaud et Nicolas Corato qui ont fait leur entrée dans leur studio. Nous allons parler d'un anniversaire, les 40 ans du 10 mai 1981. La gauche revenait au pouvoir pour la première fois de l'histoire de la 5e République à l'époque. Que reste-t-il de cet esprit de mai 81? Aujourd'hui, un certain nombre de candidats de gauche sont déclarés pour la prochaine présidentielle. Y en a-t-il un qui est plus proche que d'autres de l'esprit de 81? En tout cas, qui est l'héritier de François Mitterrand? On en parle dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de la politique.
5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
Imaginez l'émotion de Nicolas Corato, l'une de nos deux voix de la politique qui est présent ce soir. Nicolas Corato, bonsoir à vous.
Bonsoir Jean-Marie, j'en ai des trémolos dans la voix.
Vous en avez des trémolos dans la voix, fondateur du think tank Place de la République, auteur du livre.
Je peux vous chanter l'international, non?
Vous pourriez, pourquoi pas. Mais écoutez, tout est permis, parlons vrai sur Sud Radio. Vous êtes libre, vous êtes l'auteur du livre Grande plaidoirie et grand procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle, c'est publié chez Eredium. Maxime Thiebaud est avec nous ce soir. Bonsoir à vous.
Bonsoir Nicolas.
Docteur
bonsoir
en droit. Auteur du livre « Gilets jaunes, vers une démocratie réelle », c'est publié chez VA Presse. On a en commun, mon cher Maxime, que tous les deux, on n'était pas nés en 80. On l'a raté de peu. Je ne sais même pas si vous avez vraiment beaucoup de souvenirs. Quels souvenirs vous en gardez?
Moi, j'étais bien né, j'avais 6 ans. Ouais. Et comme dans toutes les familles, il y a la légende du 10 mai 81, puis il y a ce dont on se souvient réellement. Je ne sais pas faire le tri entre les deux, mais j'ai un souvenir donc très précis, mais donc très familial et peut-être très mythologique de ce 10 mai 81.
Un souvenir mythologique, sans doute, et la légende de la famille Corato. On a fait la fête dans la famille Corato ou on était plutôt, on avait peur des rouges.
La légende, c'est que l'un avait voté pour Giscard, l'autre pour Mitterrand, et que donc la soirée était peut-être soit morose pour l'un, soit festive pour l'autre, ou que finalement ils se sont retrouvés sur un consensus politique.
En tout cas, un consensus gastronomique, j'imagine, vu l'heure qu'il était. Quoi qu'il en soit, hier, toute la famille socialiste, ou du moins ce qu'il en reste avec François Hollande, s'est réunie au Creusot en compagnie de nombreux ténors socialistes, justement pour rendre hommage à François Mitterrand, 40 ans après son élection. François Hollande, d'ailleurs, qui rappelle pour France 3 qu'avant 81, Nicolas Corato, la gauche était divisée.
Mitterrand avait eu raison, alors même que la gauche s'était divisée, de continuer, lui, à suivre son chemin et à ne pas s'intéresser aux divisions et aux autres familles politiques de la gauche, parce qu'elle serait obligée de suivre dès lors qu'il aurait pris l'ascendant.
Prendre l'ascendant, commencer d'abord par faire la route tout seul et ensuite imposer sa synthèse à tout le monde. Ça vous rappelle quelques souvenirs, mon cher Nicolas. Il y en a d'autres, hein, d'ailleurs. On va faire quand même un tour d'horizon de toute la gauche aujourd'hui. Anne Hidalgo aussi était au Creusot. Anne Hidalgo, justement, elle explique qu'il ne faut pas oublier une autre personne dans la famille Mitterrand.
J'avais une vingtaine d'années quand François Mitterrand a gagné. Et donc, pour moi, comme pour beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes de gauche, Daniel Mitterrand était vraiment un ancrage à gauche, y compris l'ancrage à gauche de François Mitterrand.
Tiens, Mitterrand était-il fondamentalement de gauche? C'est une autre question à laquelle on vous proposera de répondre tous les deux dans quelques instants. Je termine quand même par le troisième représentant de la gauche, en tout cas le plus en vue aujourd'hui. Il n'était pas au Creusot hier, c'est un ancien socialiste. Jean-Luc Mélenchon est-il mitterrandien? En tout cas, et depuis toujours d'ailleurs, il a toujours clamé son admiration pour François Mitterrand.
Je m'en tiens à la leçon que m'a donnée peu de temps avant qu'il disparaisse, celui dont j'avoue avec fierté qu'il était un maître à penser pour moi, le président Mitterrand. Il me dit, ne cédez jamais, marchez votre chemin. Je marche, monsieur.
Je marche. Je précise d'ailleurs que cette envolée lyrique lors d'un congrès était avant l'arrivée de La République en marche. Bref, la question qu'on va se poser ce soir, avec qui marcher justement? Est-ce qu'il y a Hidalgo, Montebourg, Valls, Yannick Jadot, Roussel pour le Parti communiste, Mélenchon, qui porte l'esprit de mai 81 aujourd'hui? Il y a un certain nombre de candidats ou de présidentiables de gauche qui sont sur les rangs pour la prochaine présidentielle. Lequel est le plus mitterrandien? Est-ce qu'il reste à gauche des héritiers de François Mitterrand? On commence, si vous le permettez, mon cher Maxime, par le plus à gauche du plateau. Donc, Nicolas Corato.
Vous voulez que je réponde à la question qui est l'héritier de François Mitterrand?
Est-ce qu'il en reste?
D'abord, François Mitterrand n'a pas d'héritier politique. François Mitterrand est le dernier président de gauche, le premier et le dernier président de gauche à ce jour de la Ve République. le premier et le dernier parce que c'est le seul à avoir porté un vrai projet de changement radical de la société. On dit souvent que ça s'est arrêté en 83, mais ces trois années, elles en ont valu 30. C'est-à-dire qu'elles ont donné des acquis sociaux, elles ont rétabli la prééminence du politique sur l'économique et sur énormément de changements de société. Les 60,
la retraite à 60 ans, les 39 heures, les nationalisations.
La cinquième semaine de congés payés, les nationalisations. Il faut se rendre compte qu'on a nationalisé quasiment toutes les banques en 1980. Vous vous imaginez que si aujourd'hui on allait vers la même chose. Mais après tout, aujourd'hui, on donne de l'argent aux banques pour qu'elles le donnent aux entreprises, aux ménages. On pourrait très très bien, avec cet argent, indemniser les banques et les nationaliser. Pourquoi pas? Ça se fait dans d'autres pays. C'est intéressant parce que c'est un homme qui, et à l'époque, on faisait pas le clivage, a su aussi mener des réformes dites sociétales, qu'on appellerait sociétales aujourd'hui. J'en prends deux exemples, une très connue, l'abolition de la peine de mort, qu'il a annoncé alors qu'il était candidat, alors que les sondages étaient très très mauvais pour cette option. Et puis ensuite, par exemple, la dépénalisation de l'homosexualité.
La décriminalisation.
Alors qu'à l'époque, il faut le dire, on était très très loin dans l'opinion publique d'avoir un consensus sur la question. Et il faut le dire, sur toutes les propositions du président Mitterrand, quasiment toutes les propositions sont passées, sauf une, qui était le vote des étrangers, qui n'a pas pu aller jusqu'à son terme. Mais c'est un président qui a appliqué son programme, qu'il a appliqué avec tambour battant, avec beaucoup de style et beaucoup de classe. Et puis surtout, moi, je retiens surtout ça, la prééminence du politique sur tout le reste.
Vous oubliez d'ailleurs aussi une autre mesure qui a fini par être retoquée dans la rue, c'était justement la nationalisation de l'enseignement libre face aux manifestations en 1984.
Il ne s'agissait pas de nationaliser l'enseignement libre, il s'agissait peut-être de retrouver un partenariat équilibré entre l'État et cet enseignement.
La loi Savary.
Je rappelle qu'en France, nous payons avec nos impôts des établissements d'enseignement privés qui ne bénéficient pas à tous les enfants, puisqu'ils sont soumis à des conditions de ressources.
Un mot avant de donner la parole à Maxime Thiébaud. Nicolas Corato, vous avez dit, avec une certaine forme d'ironie, Mitterrand, le dernier président de gauche. Hier, à l'hommage au Creusot, il y en avait un qui était au milieu. C'est à ce stade le dernier officiellement président de gauche de la Ve République, qui s'appelle François Hollande.
Oui, élu par la gauche, mais qui a appliqué une politique de droite. On ne peut pas parler d'un président de gauche quand on a un président qui a opté pour la théorie de l'offre contre la théorie de la demande. Voilà, tout simplement. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Voilà.
Maxime Thiébaud, les années Mitterrand aujourd'hui, ça vous évoque quoi? Et surtout, qu'est-ce que vous en retrouvez dans l'offre politique aujourd'hui, par exemple, à gauche?
Alors, moi, Mitterrand, c'est mon premier souvenir télévisuel. Lorsqu'il est décédé, quand on me dit quel est ton premier souvenir à la télévision,
c'est son grand événement.
C'est ce qui m'a marqué, j'avais 3 ans.
1995.
Je suis d'une famille qui est plutôt Ratsoc.
Radical socialiste.
Donc, mon père est plutôt modéré, a voté Bayrou. Je pense qu'il n'était pas majeur, mais en 81, je pense qu'il aurait voté Mitterrand. Je dois dire que les deux premières années de Mitterrand me séduisent beaucoup. Moi, trentenaire de 2021. C'est-à-dire que tout ce qu'il a apporté à cette époque-là, je suis pratiquement d'accord. C'est-à-dire qu'il fallait rétablir la puissance de l'État face à l'économie. Il fallait être en capacité d'avancer sur des questions sociétales, notamment sur la peine de mort, qui aujourd'hui, moi, est une question pour laquelle je suis très, très attaché. C'est-à-dire
que quand je vois que le débat. Je suis élève avocat aujourd'hui.
Je suis élève avocat. Et puis, c'est une question. Moi, je suis attaché aux grands principes fondamentaux, notamment, je suis contre la peine de mort. Je suis foncièrement attaché au respect du principe d'innocence, du principe de la présomption d'innocence, aujourd'hui est attaqué par une partie de jeunes qui, à mon sens, ont perdu tout sens de la culture et ont perdu le sens de l'état de droit, parce qu'il y a un grand problème de culture générale dans ce pays et puis de retour aux fondamentaux. Et ça me fait penser que Mitterrand était, et je le pense aussi, le dernier président de la République française à être doué d'une culture générale. Et je pense que Jacques Chirac avait une culture qui était plus d'apparence, et François Hollande, Nicolas Sarkozy n'ont que très très peu de culture.
Sans prendre la défense de Jacques Chirac, c'est pas vraiment ce qu'en disent, y compris ses adversaires qui l'ont croisé, sur l'absence de culture générale. Après, qui était le plus cultivé?
En tout cas, c'était pas un homme de lettres comme pouvait l'être Pompidou ou comme a pu l'être le président François Mitterrand. Après, là où je suis beaucoup plus nuancé, et je reprendrai un peu le Luron qui disait « j'étais mitterrandien pendant une journée », c'est-à-dire le 10 mai 80, c'est qu'à partir de 83 et la bascule social-démocrate, où il y a eu le serpent monétaire, on est tombé finalement sur le poste national. C'est-à-dire que Mitterrand a abandonné, à mon sens, l'idée de nation, a voulu construire l'Union européenne. En même temps, son histoire personnelle pouvait le conduire à être opposé aux nations, parce qu'il avait connu le pire de la nation.
Et comme tous les Français de sa génération.
Mais pour autant, il n'a pas vu que le poste national, le poste, la post-nation, l'européisation, la mondialisation, avait conduit finalement à détruire l'universel, qui est normalement une idée de gauche, et avait uniformisé les gens autour d'une notion d'argent et de consommation.
Ça ira jusqu'au référendum, d'ailleurs, sur Maastricht.
Tout à fait, qu'il a soutenu. Et paradoxalement, c'est plutôt Philippe Séguin, qui en 91 a été sur des idées qu'on pourrait rejoindre à la gauche, c'est-à-dire de la défense de la démocratie nationale face à un François Mitterrand qui était passé à autre chose et qui était passé à une vision mondialisée et à une vision
mais Séguin
était
un gaulliste. En tout cas, c'est vrai que le slogan, alors on n'est pas en 81 pour le coup, le slogan socialiste pour le oui au référendum sur Maastricht, c'était faire l'Europe, c'est faire le poids. Et vous aviez justement un Européen qui arrivait face à un gros sumo japonais et un bodybuildé américain. Nicolas Corrato.
Il ne faut pas réécrire l'histoire, je pense. J'entends ce que vous dites, Maxime, mais je pense qu'à ce moment-là, quand il s'agissait de construire l'Europe, d'abord, l'Europe était majoritairement socialiste, c'est-à-dire qu'il y avait... c'était les socialistes qui majoritairement construisaient l'Europe. Je ne parle pas de l'Allemagne, je ne parle pas de l'Angleterre, mais le reste de l'Europe était très majoritairement socialiste ou social-démocrate. Et il y avait cette idée qu'on ne peut pas leur reprocher aujourd'hui qu'on commençait un processus et pas du tout dans l'idée d'arriver à l'état où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire d'une puissance uniquement ultra-libérale. Je veux dire, tous ces chefs d'État, Mitterrand le premier, n'avaient pas du tout ce projet en tête. C'est ensuite que la construction européenne a balbutié, qu'on en est resté à une vision économique et qu'on a complètement abandonné la vision sociale. Peut-être que c'est un piège, peut-être que c'était une erreur de s'embarquer dans cette construction européenne, mais je pense que le cap, il était autant social que politique.
À quoi aurait dû sembler, d'après vous, on va faire un petit peu du chronique, l'Europe à laquelle ils auraient voulu ces socialistes de l'époque.
Typiquement, ces socialistes de l'époque qui avaient bataillé ferme avec les communistes pour l'instauration du SMIC, se seraient battus et voulaient se battre pour un SMIC européen, pour une harmonisation sociale européenne.
De la même manière,
ces socialistes qui, et ça leur a été reproché, avaient dégainé l'arme fiscale pour remettre l'État et la politique au premier, auraient bataillé pour l'harmonisation fiscale. Et ont bataillé pour l'harmonisation fiscale. C'est au fur et à mesure que finalement la gauche est gagnée par les théories libérales, néolibérales, que va s'effilocher ce projet européen socialiste qui va devenir un projet purement gestionnaire et d'accompagnement de la règle anti-concurrence.
Mais ce n'est pas
Mitterrand qui est à l'origine de cette dégradation-là.
Vous utilisez le terme libéral d'ailleurs, on va s'arrêter là-dessus, on va reparler un petit peu d'économie, parce que c'est vrai qu'il y a un monde, malgré tout, entre le gouvernement de gauche qui est élu en 1980, qui nationalise, vous l'avez rappelé, toutes les banques, entre autres choses, et ensuite ce que feront les différents gouvernement de gauche. Comment on explique après, effectivement, que la gauche soit beaucoup plus modérée, ne revienne pas sur les privatisations en 88, quand elle revient au pouvoir? Comment on explique qu'en 97, parce que vous tapez toujours sur François Hollande, mais il n'était pas tout seul, le gouvernement Jospin, par exemple, sera celui qui privatisera le plus de l'histoire? Comment ça s'explique, Nicolas,
vous avez une bascule. L'histoire de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale...
Pour vous, c'est l'Europe le problème?
Non, c'est la construction de l'Europe, c'est la vision qu'on a de l'Europe. Vous avez un combat entre les nationalistes d'une part, et quand je dis nationaliste, c'est pas au sens péjoratif comme on peut l'entendre, c'est-à-dire les gens attachés à la souveraineté nationale, et d'autre part, les fédéralistes, ceux qui voulaient construire une Europe fédérale, Schuman, Monnet et autres. Jusqu'au décès, en fait, de Pompidou, on est resté sur une vision nationaliste, c'est-à-dire qu'on a défendu la souveraineté nationale. À partir de Valéry Giscard d'Estaing, on a commencé à voir tout cela s'effilocher. On a vu une social-démocratie s'installer à travers Valéry Giscard d'Estaing, mais aussi à travers une partie de la gauche autour de Jacques Delors et autres.
Valéry Giscard d'Estaing de social-démocrate.
Mais si, il était complètement social-démocrate.
Oui, C'était un Valéry libéral, Giscard d'Estaing, Valéry Giscard, c'est un...
Oui, non, mais il a défendu...
Il a commencé un ultra-libéral, quand même, Giscard d'Estaing.
C'est... Mais c'est pas la même chose que même un...
Entre la social-démocratie ou la libérale-démocratie, je vois pas trop de différence. Bon.
Pour vous, c'est la même chose.
On va dire qu'il y a des nuances, mais d'accord, allez, on vous passe.
Oui, mais la nuance, ça fonde pas un parti politique, à mon sens. À mon sens, depuis 40 ans, malheureusement, on est dans une vision qui est d'aliénation du pouvoir national.
Du coup, si je caricature grossièrement depuis les années 70, un peu après, avec Giscard, en gros, la droite et la gauche sont d'accord, et le problème, c'est l'économie
non,
de l'Europe.
Non, parce qu'en 91, on a gardé quand même ce vrai clivage entre la gauche et la droite sur la construction, avec Philippe Séguin. Après, ça c'est complètement
tombé. Séguin était pour le non à Maastricht, oui, les trois quarts de la droite étaient pour le oui.
Non, mais c'est pas vrai. Reprendre le discours du 5 mai 91 à l'Assemblée nationale, 92, pardon, à l'Assemblée nationale de Philippe Séguin, c'est un discours qui est foncièrement.
Là, vous êtes sur les frontières.
Parce que tout découle.
Vous êtes sur les frontières.
À partir du moment. Oui, mais c'est bien ce que je veux dire. À partir du moment où vous définissez une Europe fédérale. Le pouvoir, il n'est plus en France. Donc, le modèle que vous avez en France, vous êtes obligé de l'abandonner pour avoir un modèle européen. Et je suis d'accord avec ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'est qu'on avait, en fait, une Europe qui était plutôt social-démocrate. Donc, qui n'était pas foncièrement d'accord avec la vision de Mitterrand de 80 à 83. Et lorsqu'on a confié les pouvoirs à cette Europe fédérale, qui ne dit pas son nom, puisqu'on a une Europe un peu entre les deux, petit à petit, c'est détruit l'ensemble de notre maillage. Tout ce qu'on appelait les grands A, vous savez, Alcatel, Alstom et autres, c'est petit à petit la grande industrie française, c'est petit à petit cassé la figure parce qu'il ne fallait plus faire d'interventionnisme économique. Et ça, c'est une conséquence d'une bascule à gauche et ensuite qui a été suivie par la droite.
Moi, je crois qu'il y a d'autres critères qui sont beaucoup plus franco-français. J'entends le sujet sur l'Europe, je ne le mets pas de côté. Je pense que le gap social et économique a été tellement important. Au début des années 80, et Mitterrand n'est pas le seul comptable, je veux dire que la croissance économique, même avec le chômage initié sous Giscard, a joué un rôle. Les Français se sont considérablement enrichis pendant ces années-là.
Alors, sous
Mitterrand et sous Giscard, il y avait le rôle de l'inflation aussi qui a fait à l'époque, on empruntait à des taux énormes, mais les salaires montaient encore plus. Donc tout ça était une autre affaire. Et il y a eu une gentrification de la société française. C'est-à-dire que finalement, les classes populaires sont très rapidement devenues des classes moyennes.
Donc la gauche a disparu parce qu'elle a embourgeoisé la France.
L'électorat de gauche, oui, je pense que la gauche a tellement fait pour le pays, mais pas que la gauche, d'autres gouvernements avant, que finalement, à la fin des années 80, les classes populaires sont devenues des classes moyennes. Et qu'est-ce que veulent les classes moyennes? Pardon, c'est une lecture un peu marxiste de l'histoire, mais j'irai au bout. Les classes moyennes veulent défendre leur position et sont beaucoup plus promptes à défendre leur livret A, leur assurance vie, que d'aller vers des conquêtes sociales. Par ailleurs, la catégorie ouvrière devient... On voit la désindustrialisation de la France.
Oui, sauf que, pardon,
quand vous parlez du renoncement de Lionel Jospin, c'est sur l'affaire Viltord à Renault, c'est une usine, et finalement, Lionel Jospin dit que l'État ne peut pas
vous
tout,
dites que
donc c'est fini.
Vous dites qu'avec la gauche, les ouvriers sont souvent allés dans la classe moyenne. Quand une usine comme Renault ferme, par exemple, en général, ils deviennent chômeurs.
Oui, mais c'est pas la classe moyenne, c'est pas l'électorat,
l'électorat
du Parti Socialiste.
Pourquoi ça ne l'est plus, justement?
Mais parce que le Parti Socialiste est resté sur un électorat de classe moyenne, tertiaire, de profs, de professions libérales, de gens qui ont considérablement accru leur niveau de vie pendant toutes ces années-là. Je ne dis pas que tout ça a été parfait, bien sûr, il y a toujours des nuances à faire, mais cet électorat a radicalement changé. Les gens qui votent, l'électorat qui vote le 10 mai 81 n'a plus rien à voir avec l'électorat qui va voter ensuite en 1995.
Dernière question peut-être, pour tous les deux d'ailleurs, Nicolas, est-ce que Mitterrand, en tuant le Parti communiste, puisque globalement, en tout cas en tuant ce qu'était le Parti communiste à l'époque, évidemment il existe toujours, c'est pas celui qui a condamné le vote des classes populaires à quitter la gauche? Les ouvriers ne votent plus à gauche aujourd'hui.
Ouais, ça se discute. C'est une affaire très compliquée. Je pense que si on se souvient de ce qu'était le Parti communiste français à l'époque de François Mitterrand, on serait tous d'accord ici pour dire qu'il a bien fait l'exclure de l'échiquier politique.
Je ne vous ai pas demandé s'il était gentil ou méchant.
Démocratique.
Dans ce cas-là, est-ce qu'il n'a pas condamné finalement la gauche à tourner le dos au vote populaire, au vote ouvrier?
Non, parce que je pense que François Mitterrand avait à cœur de tenir toutes les nuances du socialisme dans ses mains, y compris celle qui était la plus à gauche. Je pense que ce sont ses héritiers qui ont oublié les classes populaires, et qui d'ailleurs n'ont pas simplement oublié les classes populaires, mais ont exclu les classes populaires de tout leur programme, de Lionel Jospin jusqu'à François Hollande.
Maxime Thiebaud.
Moi, je pense que Mitterrand, à partir de 83, avait terminé l'essentiel de son programme. et il ne savait pas quoi faire après. Et il a pas su, en fait, accompagner la France telle qu'elle devait continuer d'exister. Et ça, ça a été le vrai problème. Et il s'est mis à travers la construction européenne, qui, à mon sens, a dilapidé ensuite le pays. Et je ne peux pas lui reprocher, parce que... On ne peut pas lui reprocher, intellectuellement, on ne peut pas lui reprocher, parce qu'il faut voir à quelle époque il a vécu, il faut voir qu'il est né de la Seconde Guerre mondiale, politiquement. Et donc, on pouvait comprendre cette vision-là. Par contre, ça a été, malheureusement, un manque de vision sur l'avenir du pays.
Un manque de vision, en tout cas, que vous déplorez.
Un dernier mot, des choses dont on parle moins aujourd'hui, la culture chez François Mitterrand, vous en avez parlé, mais la politique culturelle qui n'a rien à voir de commun avec ce qu'on connaît depuis. Et puis, moi, je rends hommage au bâtisseur qui a changé la face de Paris, qu'on le veuille, qu'on l'aime ou non. Cet homme est, depuis Napoléon, l'homme qui a le plus changé
la face architecturale de Paris. La grande bibliothèque, la pyramide du Louvre. Effectivement, en tout cas, on reparlera des années Mitterrand. Il en reste encore des traces aujourd'hui. Tiens, une trace en musique, ça va peut-être vous rappeler quelques souvenirs quand vous étiez enfant, cher Nicolas Corato. Merci à tous les deux. Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République, auteur du livre Grande plaidoirie et grand procès chez Eridium. Merci Maxime Thiébaud.
Merci.
Merci à vous, docteur en droit, auteur du livre Gilets jaunes, vers une démocratie réelle chez VA Presse. La suite de votre soirée à l'écoute des vraies voix qui font bouger l'en France, tout de suite, parlons vrai avec les entrepreneurs sur Sud Radio et sur Bismart.